On va passer à la partie débat. Vous faites signe si vous voulez intervenir et je donnerai la parole au fur et à mesure. Voilà, alors monsieur.
Denis Oulès, j'anime une association qui est sur le sud du bassin parisien et qui met en relation tout ce qui est high-tech, start-up, entreprises, investisseurs, etc. Je reviens sur la présentation qui a été faite tout à l'heure. Enfin, je retiens trois mots-clés pour la marque France: identité, cohérence, pertinence. Si votre très brillante étude avait été sur les bureaux des ministres qui, il y a 20 ans, ont accepté la décision d'installer Disney dans les champs de betteraves à l'est de Paris, est-ce qu'elle aurait été prise comme ceci? Dit autrement, ne faudrait-il pas franciser un peu Mickey?
Franciser un peu Mickey. On ne peut pas reprocher à Walt Disney d'être venu dans l'Est parisien. Ça a créé, notamment en termes de touristes, quand même un effet d'attractivité qui est énorme. Enfin, il faut savoir quand même que Walt Disney reçoit chaque année, je crois, c'est 15 millions de touristes, 16 millions de touristes. Donc c'est quelque chose qui a un effet d'attractivité énorme. Donc certes, à la base, Disney n'est peut-être pas français, mais enfin, c'est quand même un pôle d'attractivité majeur autour duquel viennent se greffer beaucoup de choses. Ça crée du dynamisme économique local avec toutes les activités de service et tous les gens qui habitent autour. Ça a aidé à faire émerger les villes nouvelles dans la région. Puis vous avez dû le voir récemment, il y a de tout nouveaux projets comme les villages nature de Pierre et Vacances qui vont s'implanter autour de cette entreprise-là et qui justement vont participer de cette tendance du développement durable dont je vous parlais tout à l'heure. Donc parfois, le fait d'avoir un gros noyau économique, si vous le voulez, une sorte de caution pour attirer des gens et leur faire connaître tout ce qu'il y a autour, ça peut être une très bonne chose également. Donc il ne faut pas rejeter parce que ce n'est pas dans les valeurs tout à fait françaises.
Oui, mais je vais ajouter un mot. J'ai dit tout à l'heure, il y a dans l'économie ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. Parmi les deux sites que je n'ai pas pu mener à bien en tant qu'ambassadeur aux investissements internationaux, il y en a un qui m'a fait particulièrement mal, c'est celui d'Universal Studios. J'avais eu par Félix Rouatine le tuyau qu'il cherchait à faire des choses à l'extérieur. Je vais voir le président en Californie. Je connaissais très bien le produit qui est remarquable. Et on monte tout un dossier entièrement bouclé, énorme. Plus d'$1 milliard ou d'euros d'investissement, 1 500 emplois créés dans un premier temps. Ce que je n'avais pas vu, c'était d'une part la réaction de Disney, qui était très négative vis-à-vis de son concurrent et qui a savonné la planche, et puis les réactions des élus de la région Île-de-France, qui n'ont pas vu, qui n'ont pas compris que c'était un atout majeur pour le pays et qui n'ont pas été suffisamment positifs. Ils ont dit la culture française va être menacée, menacée par Universal Studios, c'est complètement débile. Un deuxième, ça va tuer Disney. Enfin, des conceptions complètement rétrogrades du développement économique. Et voilà des dossiers qui peuvent être menés à bien, qui auraient pu et qui ont échoué. Mais des dossiers comme ça, je pourrais vous en citer des pelles, soit de mon temps, soit qui se sont passés avant. Il y a vraiment des tas de choses qui peuvent être améliorées là-dedans.
Jean-Max Ladoune, consultant. Je voulais juste répondre à la question de monsieur concernant Disney. Et il me semble que si on fait une comparaison entre le parc Astérix et Disney, on a la réponse à sa question.
En quel terme? En termes de
francisation de Disney. Est-ce que Astérix est un parc français ou pas? Je poursuis. L'attractivité de Disney rejoint les problèmes de marque et du rayonnement européen de Disney. Il faut voir d'où viennent les gens qui viennent chez Disney. Les 15 millions, ils viennent de Belgique, de Hollande, d'Italie, de partout. Nous ne rêvons pas. Pourquoi est-ce qu'Astérix stagne? C'est un parc qui est très sur le plan des attractions, etc. Et on peut comparer les attractions d'Astérix à celles de Disney. Hein. C'est kiff-kiff. Alors, pourquoi oui. est-ce que l'un
stagne? Non, mais c'est vrai, ça c'est l'effet des marques. Alors, de ce point de
vue. Et du montant d'investissement qui est fait.
Je vous suggère de garder un œil sur les textes qui vont sortir de l'École de Paris prochainement, parce que nous avons une séance absolument extraordinaire mercredi dernier d'un séminaire sur le cas du guide Michelin. Et on a parlé de l'impact incroyable de la création du guide Michelin de Tokyo. Et donc le guide Michelin était le premier guide existant au Japon, à Tokyo, pour classer les restaurants japonais. C'est d'une culture, une cuisine différente, une tradition différente. Mais le guide Michelin est une marque mondiale qui a l'air d'avoir de l'effet partout, à Singapour, au Japon. Et vous regarderez par quel biais le guide Michelin a réussi à juger une cuisine japonaise qu'aucun japonais ne pouvait juger, puisque classer les japonais entre eux, c'est impossible pour les japonais. Et quand le guide Michelin est sorti, en 3 jours, il en a vendu 500 000 exemplaires, donc sur Tokyo seulement. Donc, un meilleur succès que Harry Potter. Donc, il y a des fois des marques qui ont un impact absolument considérable. Et bon, on a quelques marques en France, dont on les a vues passer, Hermès, Vuitton, Michelin, Guide Michelin. Je ne sais pas pour les pneus si la marque est aussi importante, mais il y a effectivement l'effet marque qui joue un rôle important. Et on a quelques marques ou quelques secteurs qui peuvent avoir un grand impact et pourquoi s'en priver ?
Grégoire Postelvinet à la DGSIS au ministère de l'économie et de l'industrie. Trois remarques en fait, une sur la science, une sur les vidéos et une sur la Chine. Sur la science, bon, votre exposé il porte essentiellement, me semble-t-il, sur les aspects soit tourisme, soit luxe, des choses qu'on connaît déjà bien. Les matrices de scoring en termes de succès internationaux que nous pouvons avoir importent, d'où l'idée d'ailleurs qu'a défendue Valérie Pécresse d'avoir des matrices de scoring européennes qui correspondent aussi à la fois à nos critères et à ce qu'on sait faire de mieux. Donc y a-t-il à votre avis quelque chose à faire de ce côté-là ? Première question. La seconde, l'ambassadeur Torgman a souligné, à mon sens, à juste titre, l'importance des médias et l'importance de faire en sorte, non pas simplement de faire de la publicité institutionnelle, ce qui n'est effectivement pas très efficace, mais qu'on parle de soi sur des événements concrets. Il y a un support qui va aller en croissant à toute allure dans les années qui viennent, qui sont les vidéos sur mobile. Et la communication sur mobile est quelque chose qui va exploser. Alors, ou bien on y est présent et ça va très bien, ou bien on n'y est pas présent et ça ira moins bien. On a déjà fait des exemples en matière cinématographique où dans les années 60, tous les bons films de Funès ou de quelques autres largement commerciaux vantaient les mérites de la place de Paris, les endroits jolis à voir, et la haute couture et la gastronomie. On a refait la même chose en version numérique qui était Ratatouille. Quel est le Ratatouille ou le Funès suivant qui peut servir de manière efficace ? Et le troisième, c'est peut-être une mise en garde sur ce que sont les Romains actuels face aux Gaulois et qui sont les Chinois. Dans le début des années 2000, ils ont décidé d'avoir une politique de brevets musclée et le fait est qu'au cours des 5 dernières années, ils ont multiplié par 5 leurs brevets. Ça, c'est rien de nouveau. Par contre, ce qui est un peu plus nouveau, c'est que depuis 18 mois, ils ont décidé aussi d'avoir une politique de marque et que puisqu'ils augmentaient la relance intérieure par de la consommation, ils se sont dit qu'au fond, cette consommation, ça devait leur servir à eux aussi et donc il y aurait des marques chinoises. Alors comment ils vont s'y prendre, je n'en sais rien, mais la façon dont nous pouvons nous y prendre pour avoir une part de cette volonté dont on ne peut pas douter qu'elle aura des résultats, me semble un sujet important.
Alors peut-être sur la première question, effectivement, sur les aspects classement. Déjà, effectivement, il y a une sorte de critères sur lesquels, notamment, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on n'est pas très bon. Et en plus, ce qui se passe, c'est que les classements, effectivement, internationaux, qui sont guidés soit par les anglo-saxons, soit par les chinois, ils les mettent en valeur, ces défauts. Enfin, il me semble qu'il y a eu pas mal de démarches. On a beaucoup parlé des universités. Il y avait des classements qui sont faits par les universités. Alors pour trouver la première, il faut la trouver à la 60e place. Il y a des classements parallèles, j'allais dire concurrents, qui ont été mis en œuvre par des universités françaises, mais qui ont eu peu d'écho, finalement. Et finalement, j'ai l'impression que la démarche qui a le mieux marché, c'était la démarche qui consistait à les dénoncer, ces classements-là, à dénoncer leurs problèmes. Mais là, j'ai eu aussi l'impression que sur cette dénonciation de ces classements-là, on est apparu comme mettant encore plus en avant nos défauts. Donc globalement, sur ces histoires de scoring, j'ai pas l'impression qu'on soit très bon en plus.
Je vais quand même intervenir en seconde. HEC, que je connais bien, puisque j'y enseigne maintenant, a un super scoring, c'est adapté au système américain, tout simplement. Ils ont fait le choix de ne pas inventer, ce qui est quand même une bonne solution. Typiquement, ce que disait le monsieur ambassadeur, c'est que comment joue-t-il ? Et on prend les règles du jeu, on peut en inventer.
Bon, ça renvoie à notre débat, mais ce n'est pas forcément la voie d'avenir la plus radieuse pour HEC que de s'adapter complètement au système américain. Bon, vous verrez un débat vigoureux que j'ai eu avec Ramanantsu il y a quelque temps. Je persiste que l'identité d'une école de commerce française étant très différente de l'identité d'une business school américaine, le simple copiage n'est pas une bonne stratégie.
Attends, je me permets d'intervenir, ce n'est pas du copiage. Moi, je vais évoluer en parallèle. Les deux écoles dont je suis issu, qui sont l'X et HEC, je suis désolé, à l'X, on aurait été un peu plus pragmatique, ça n'aurait pas été plus mal. Hein.
Alors, peut-être un mot sur la deuxième question de M. Postelvinet. Plus généralement, sur les médias, c'est vrai que c'est un sujet dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais dont on parlera dans le mémoire, c'est finalement les questions d'image à travers Internet et toute la sphère numérique. Parce qu'effectivement, Internet a quelque part un peu révolutionné aussi la manière de communiquer et de se placer dans la compétition internationale. Les Français ont toujours l'impression que la capitale internationale de la mode, c'est Paris. Ça, c'est clair, ça fait doute pour personne dans cette salle. Si, à vous, peut-être. Voilà, bon, quand vous tapez sur Google, clairement, la capitale internationale de la mode, c'est Milan. Il n'y a pas vraiment de souci. Et la deuxième, c'est New York. Et petit à petit, la place de Paris... Shanghai va arriver. La place de Paris est en train de s'effriter petit à petit, parce qu'il n'y a pas forcément assez... Alors, je ne vais pas parler d'intelligence économique, on peut parler peut-être d'intelligence numérique, sur finalement qu'est-ce qui se passe sur Internet et quelle est l'image que renvoie le net qui influence aussi beaucoup les gens et notamment les classes émergentes dans les pays développés. Donc finalement, quelqu'un qui veut alors s'intéresser à la mode, le premier réflexe qu'il va avoir, c'est de prendre Google ou de regarder sur Internet, il va plus avoir tendance à s'intéresser à Milan ou à New York ou à Shanghai, alors que en termes de légitimité, d'histoire ou même de réalité dans la qualité des confections, c'est pas forcément indiscutable. Voilà.
Je suis d'accord, en fait, précisons pour ceux qui connaissent certains d'un salle qui sont quand même du métier, Paris est encore considéré comme la capitale du luxe. et pas du tout de la mode. Et ce sont très divergents. Alors ce troisième point soulevé par Grégoire, je vais être extrêmement clair. Le jeu des marques est un jeu à somme positive, ce n'est pas un jeu à somme nulle. C'est pour ça que je suis très content qu'on se penche sur ce sujet. Ce n'est pas parce que la marque France va devenir meilleure pour valoriser qu'elle va prendre sur la marque allemande. On change de jeu. Donc, moi, j'ai beaucoup d'élèves chinois de très haut niveau qui me demandent comment construire leur marque, ils vont le faire. Je trouve que c'est très bon pour les marques françaises. Donc, tu vois, si tu veux, ça, c'est un point très important. Contrairement au brevet, où c'est un truc très, 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 très dangereux, contrairement à tous les trucs qu'ils font, sur les marques, je suis beaucoup plus positif. Je pense que ce n'est pas du tout un jeu à somme nulle. Voilà mon opinion.
Oui. La remarque de Grégoire nous amène aussi à un autre type de réflexion, c'est de comprendre le monde tel qu'il va évoluer, pas tel qu'il est actuellement. Et là-dessus, son évolution profonde qui a commencé dans le début des années 70 est accélérée par la crise financière. On le voit tous de manière extrêmement claire. Les Chinois en 70 représentaient 1% du PNB mondial, ils doivent représenter 10 ou 11% aujourd'hui. Leur objectif, c'est 25 ou peut-être plus. Et j'étais, il y a peut-être une dizaine d'années, à Shanghai, où les dirigeants chinois nous annonçaient très froidement qu'ils voyaient Shanghai comme première place financière mondiale dans le futur. J'ai regardé les chiffres immédiatement de comparaison de capitalisation boursière. À l'époque, Shanghai faisait le millième de New York. Et vous avez vu, pour rester à notre décennie, l'ensemble des marchés émergents, c'est sorti partout, représentait en l'an 2000 5% de la capitalisation boursière mondiale en l'an 2000, aujourd'hui 29%. Et ça ne va pas baisser, ça va augmenter. Et là-dessus, qui est-ce qui va trinquer? En partie les États-Unis, mais en partie seulement, parce que les États-Unis ont une capacité de rebondissement fantastique dans plein de domaines, mais d'abord l'Europe. Donc il faut prendre conscience de ça, pour voir quels sont les nouveaux marchés qui vont émerger dans tous ces pays qui se développent et sur lesquels nous avons des tas d'atouts, la création de villes, le développement des villes, l'énergie, les transports publics, etc. Il y a plein de domaines, les classes moyennes, on en a parlé, la haute technologie, et nous positionner. Mais ceci demande une mutation intellectuelle pour nous mettre dans les marchés, les produits, les méthodes que ces gens-là voudront bien acheter. Donc, allez s'informer un peu plus sur tout ça.
Guy Ferré, il me semble qu'il y a un certain nombre de régions d'Europe, et de France en particulier, qui sont extrêmement actives à promouvoir leur image et leur marque. Bon, restons en France pour l'instant. Est-ce que vous voyez ça plutôt comme une concurrence, comme un phénomène d'addition? Est-ce que vous vous êtes intéressé à cet aspect peut-être concurrentiel entre les régions et la France?
Alors, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de régions en particulier qui ont des promotions. Vous avez des ambassades du Languedoc-Roussillon dans un certain nombre de villes par le monde. Moi, je pense que globalement, ce n'est pas un problème. Il faut juste qu'en termes de cohérence, on ne soit pas à côté de la plaque. C'est-à-dire qu'on ne revendique pas des qualités complètement différentes de ce que les gens imaginent de la France. Mais à partir du moment où tout ça est bien contrôlé, je pense qu'on peut avoir qu'un effet d'additivité.
Je suis assez d'accord parce qu'on a amassé la Champagne tout à l'heure. Champagne, c'est moitié région, moitié quelque chose. Donc c'est un système qui se construit, les marques comme des poupées gigognes. Mais c'est pour ça que cette étude, j'y reviens, m'a beaucoup intéressé. C'est qu'en fait, les poupées gigognes, en France, il y a un sommet qui est la France. Et si au sommet de la France, la marque France n'est pas gérée, la poupée s'effondre. La Champagne est gérée par le CIVC, c'est très bien géré. Ensuite, chaque marque, moi, le gère. Le cognac est pareil. Regardez, on parle des villages gaulois, mais cognac versus armagnac. Le cognac gère son histoire, l'armagnac ne l'a pas géré. Donc le problème qu'on a en France, à mon avis aujourd'hui, c'est que ce problème marque France n'est pas géré. Et il faut le gérer. Et comme le disait tout à l'heure, dans une boîte de luxe, que j'en ai dirigé pas pendant longtemps, c'est le président qui gère la marque. Donc en France, c'est pas délégable. Et donc ça, il faut le faire. Et par contre, il faut faire des gigognes. Parce que ce que vous mentionniez tout à l'heure, il y a tellement d'aspects en France, ce que disait monsieur l'ambassadeur, il y en a tellement, il faut voir quel est le noyau qu'on va communiquer. Donc pour moi, c'est au contraire plutôt une bonne chose. Excusez-moi d'être positif, je suis naturel positif, mais c'est au contraire une bonne chose. Je préfère que les régions veulent faire parler leur marque, la France veut faire parler sa marque, pour qu'il en sorte quelque chose.
Je compléterai juste une seconde en prenant l'exemple de la Suède, un des pays qui a fait le travail le plus avancé sur la marque pays. Ils ne sont pas contentés de faire un projet de marque nationale avec des valeurs nationales. C'est un projet qui a eu une déclinaison régionale également, et une déclinaison dans les grandes villes. C'est-à-dire ils ont réfléchi dans chaque région quelle était l'identité propre de la région et quelles étaient les valeurs finalement communes avec le pays, de manière à avoir une déclinaison régionale, et toute la communication et je dirais les effets de marque sont en cohérence avec le niveau national. Alors évidemment, en Suède, c'est plus facile qu'en France. Mais disons que c'est une approche qui théoriquement est possible, même avec les villes. Et la Suède est allée jusqu'à travailler avec ses entreprises nationales, qui sont connues, hein, comme IKEA ou Volvo, pour renforcer cette cohérence. Même dans la marque IKEA, vous avez un petit peu de Suède dedans. Ne serait-ce que dans la couleur du logo, hein, déjà c'est le premier indice, mais vous avez de l'esprit suédois jusque dans la marque IKEA. Donc ils sont vraiment allés très loin dans cette logique de marque-là, qui fait qu'aujourd'hui la Suède a un rang de notoriété mondiale qui est bien supérieur à son véritable poids économique.
La Suède, c'est un pays très particulier. Un type remarquable qui est Alain Perfit l'a étudié dans un livre absolument majeur, qui est la somme de sa pensée, qui est La société de confiance. Et il nous apprend, en 1715, la France était le pays le plus puissant, le plus riche, le plus peuplé d'une Europe qui elle-même dominait le monde. Mais en 1715, à la fin du règne de Louis XIV, 20% des Français seulement savaient lire et écrire. Et si vous prenez la Suède, à l'époque, 80% des gens savaient lire et écrire. Et là, vous avez une influence directe de la mentalité protestante qui demandait aux femmes de transmettre le savoir et non pas aux curés. Et donc, les femmes devaient savoir lire et écrire et donc elles le transmettaient. Et à partir de là, vous avez tout un complexe qui fait qu'un pays de 9 millions d'habitants est à la pointe dans énormément d'industries dans le monde. Alors pour nous, ça devrait être un modèle de réflexion, vous avez raison de le mentionner, mais vous avez plusieurs pays comme ça, la Suisse, qui à côté de nous est ultra performant, la Corée, qui sait s'appuyer sur les sources de valeurs et de savoirs différents, les États-Unis, sur lesquels les Français sont bêtement critiques depuis le XVIIIe siècle, hein, l'abbé Raynal, Voltaire, Buffon disait que la société américaine s'effondrerait, tout ceci. On a lâché l'Amérique au traité de Paris en 1763 pour des raisons de base intellectuelle. Le parti intellectuel français considérait que l'Amérique ne valait rien. Hein, et tous les grands penseurs français pensaient ça. Donc il y a une responsabilité des intellectuels, il y a un savoir-faire à avoir vis-à-vis de ça, et prendre les modèles, mais nous n'avons pas l'habitude de cela. Nous avons l'habitude de rechercher l'exception française et de dire que les Français sont mieux que les autres. Maintenant, on voit bien que ça touche une limite et qu'il y a d'autres qui se débrouillent aussi bien. Donc regardons un peu ce qui se passe à l'extérieur pour multiplier, ce qui ne veut pas dire que nous soyons faibles. Nous sommes un des pays les plus performants au monde dans la plupart des domaines, et ça c'est bien connu et c'est une réalité constante. Dès que vous vous baladez à l'extérieur, vous le voyez. Mais nous avons des faiblesses, et une de nos grandes faiblesses, qui vient de notre passé catholique, de notre passé socialiste et de l'importance de la psychanalyse, l'argent c'est caca. Gagner de l'argent, c'est pas bien vu en France, et vous êtes un parvenu si vous faites fortune. Ce qui est bien, c'est le vieux noble désargenté ou les histoires de l'aiguille, du chameau, etc. Ben, c'est bon, tout ceci complètement périmé. Il faut laisser les gens gagner de l'argent et leur prendre une partie raisonnable. Et là-dessus, c'est ce qui a été fait avec le bouclier fiscal. Et maintenant, j'espère bien que la nouvelle réforme passera, qu'on se débarrassera du bouclier fiscal et qu'on se débarrassera par là même de l'ISF pour redevenir un pays normal. Mais là, ça demande un accord de base avec les dirigeants de la gauche, parce qu'autrement, s'ils le remettent après, c'est une catastrophe d'avoir les va-et-vient.
Juste à propos de la Suède, est-ce que vous pouvez dire en quelques mots quel est le message transmis au monde par la Suède et qui est surtout le porte-parole? Parce que c'est un des points, c'est qui est le porteur du message?
Je n'ai pas connaissance d'un porteur en particulier.
Puisqu'on a dit que le porteur est important, si c'est vrai, il doit y en avoir un en Suède.
Oui, c'est le projet même qui a été un projet collaboratif, qui a été porté par, je ne sais pas quelle instance de l'État, mais il y a eu une réflexion nationale qui a associé le monde politique, qui a associé le monde des entreprises et qui a associé ce qu'on appelle la société civile également, de manière à définir bien ensemble quelles étaient les valeurs. Alors les valeurs, je crois que c'est le progrès, l'authenticité, enfin bon, il y a trois ou quatre valeurs principales de la Suède. Mais ils ont vraiment mené cette démarche-là. Et il y a déjà 5 ou 6 ans qu'ils se posent la question. Il y a 3 ans, ils ont fait la déclinaison régionale. Donc c'est quelque chose de très mécanique et qui déroule quelque part.
Naïma Sayoud, je m'intéresse à l'innovation et à l'investissement. Et la question sur le classement, le fameux classement de Shanghai dont on parle tout le temps. Je ne sais pas trop où est-ce que ça en est. J'avoue que je n'ai pas assisté à un débat là-dessus. C'est vrai qu'en France, peut-être que les premières écoles ne sont pas dans les 10 premières de la liste, mais en fait, c'est le mode de fonctionnement qui est différent. C'est-à-dire que les étudiants, après les études, souvent, ils vont dans les grands groupes et ça fait des champions. Ils ne font pas des thèses pour déposer des brevets, pour faire des publications, mais c'est inclus dans une entreprise et ça crée une valeur ajoutée qui est invisible, qui ne peut pas être mise dans les classements qui sont dans les sociétés. Enfin, je vois ça un peu comme ça du bout de ma lorgnette. Je ne sais pas s'il y a une étude ou si ça peut être un sujet de stage. Et enfin, j'ai l'impression que les comparaisons ne sont pas cohérentes entre les différentes institutions. Et ça, c'est une question qui reste ouverte. Et peut-être que c'est un sujet plus marketing qu'autre chose. Et l'autre point, c'est la question qui m'intrigue. Est-ce que, par exemple, s'il n'y avait pas l'ISF, s'il n'y avait pas les problèmes d'impôts, est-ce qu'il y aura cette mutation intellectuelle dont vous parliez tout à l'heure dans l'individu qui verra les choses plus positives, le verre à moitié plein, plus additive, à covariance positive? Donc, est-ce que ça changera ou est-ce qu'il restera quelque chose de générationnel? C'est-à-dire qu'il faut une éducation où le temps fera en sorte que la vision change d'elle-même. Et bon, espérons que ça changera vite, mais ça ne sera pas le cas parce que c'est toujours dans les tripes.
Juste à propos de l'arrogance ou de la complexité française, ça reste à vérifier, mais je crois que les Français sont ceux qui ont accordé le plus d'importance au classement de Shanghai par rapport à beaucoup de pays, que les Allemands y attachaient moins d'importance et que finalement, ça nous mettait dans une mauvaise position et on a pris ça beaucoup plus au tragique que d'autres pays. Et donc, ça veut dire que notre rapport au monde reste quand même problématique entre le repli sur soi et le complexe définitif. Mais je peux me tromper, mais je crois voir que dans d'autres pays, le classement de Shanghai est beaucoup moins d'importance que chez nous. Et d'ailleurs, si les gens qui ont fait le classement de Shanghai avaient imaginé le poids que prendrait leur classement, qui avait été bricolé sur un coin de table ou presque au départ, ils auraient été vraiment surpris.
Pardon. Oui, non, pour répondre rapidement sur votre deuxième question, je crois qu'il y a eu une tentative, ou peut-être une réussite, de l'École des mines de Paris il y a 2-3 ans, de créer un concurrent au classement de Shanghai qui ne regardait pas les mêmes critères, qui regardait la proportion, je crois, de dirigeants dans les 500 plus grandes entreprises mondiales. Et qui montrait, là en revanche, qu'il y avait au moins 2 ou 3 écoles françaises dans les 15 premiers. Si vous regardez les gens qui sont effectivement aux manettes dans le business international, la France est extrêmement bien placée et les écoles françaises sont extrêmement bien placées. Mais c'est une manière de faire la chose. Maintenant, avant de diffuser ça au niveau international, cette façon de voir les choses, ça va être un peu difficile. Et puis, quelque part, on revient aussi un peu dans le travers français, qui est, on essaie de se trouver un classement dans lequel on va être bien classé. Donc, ça n'excuse rien. Voilà.
La question de madame soulève aussi d'autres problèmes sur l'enseignement de l'économie. On a considéré comme un grand progrès de faire passer l'enseignement de l'économie dans le secondaire. Mais si ce que l'on enseigne quand on enseigne l'économie, c'est que l'entreprise c'est un désastre, c'est l'exploitation permanente de l'homme par l'homme et des trucs comme ça, que le partage du travail c'est la donnée essentielle, tout ceci sont des données économiques qui ne riment à rien. Alors il y a une partie de réalité, mais sur le développement d'un pays, c'est une catastrophe. Donc là-dessus, à la limite, on se dirait peut-être qu'il va falloir abolir l'enseignement de l'économie ou de faire l'enseignement de l'économie par des hommes d'entreprise ou mélanger les genres ou faire des conférences. Mais tout ceci se heurte à des réalités sociales, sociologiques, sociétales extrêmement dures, extrêmement profondes. Et je dirais que la crise actuelle, où il y a eu effectivement une privatisation pendant 15 ans des profits, et puis, pour faire payer le monde entier, notamment par le système financier américain ou anglo-saxon, donne du grain à moudre à tout ça. Donc là, il faut réagir pour montrer que le partage du travail ne signifie rien. On n'arrive à rien de ce côté-là. Plus on crée de travail, plus ça développe un pays, que les limitations ne vont pas dans le bon sens et que le profit est quelque chose de normal. Peut-être il faudrait qu'on ait un débat comme sur la force de frappe nucléaire il y a 30 ans avec les évêques, entre hommes d'entreprise et la conférence épiscopale, parce qu'avec les protestants, avec les juifs, il n'y aura pas de problème. Avec l'épiscopat, on croit que l'épiscopat n'a pas d'influence, l'épiscopat a une grande influence dans notre pays, et si on pouvait avoir, comme ils ont donné un coup de goupillon sur la force de frappe la même chose, 3 ans de travail par des généraux catholiques avec la conférence des évêques, si on pouvait la même chose avoir sur le profit commercial de son profit industriel, ça mériterait qu'un certain nombre d'hommes d'affaires se sacrifient pendant 3 ans pour expliquer à nos évêques que bon, les églises sont vides, mais la puissance intellectuelle du clergé est toujours là, et si le vœu de pauvreté est quelque chose de dominant, bah, ça pose un problème pour un pays.